Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du lundi 18 mars 2019. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin à la présentation. Voici les titres.
Le président congolais Félix Tshisekedi annonce la suspension de l'installation des sénateurs élus, le report de l'élection des gouverneurs et l'ouverture d'une enquête sur les soupçons de corruption.
Lui et son directeur de cabinet, Lital Kamere, ont frappé du poing sur la table parce qu'ils estiment qu'il n'est pas normal que eux, avec leur coalition CAS, il n'ait que trois sénateurs.
Cinq soldats burkinabés morts ce week-end dans l'est du pays dans l'explosion d'engins artisanaux.
Le cyclone Idai tue plus de 120 personnes au Mozambique et au Zimbabwe, un bilan qui pourrait atteindre le millier de morts selon le président mozambicain.
Tibor Nagy, le secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, a rencontré ce lundi à Yaoundé le président camerounais Paul Biya.
La première ministre néo-zélandaise annonce une réforme de la loi sur les armes après l'attaque ayant fait 50 morts dans une mosquée.
Et ne ratez pas la Minute Éco et les sports avec des nouvelles de la CAN 2019, mais tout d'abord, le journal.
Bienvenue à tous en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a suspendu l'installation des sénateurs élus vendredi. Les élections des gouverneurs sont renvoyées à une date ultérieure et des enquêtes pour corruption sont annoncées. Ces décisions ont été prises lors d'une réunion interinstitutionnelle de crise convoquée alors que des protestations violentes ont eu lieu dans le pays. Eddy Issongo a joint le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo.
Trois mesures importantes prises par le chef de l'État. La première, c'est de pouvoir suspendre l'installation des sénateurs récemment élus, les bureaux et tout le reste. Deuxième décision importante, de renvoyer à une date ultérieure l'élection de gouverneur de province. Et troisième mesure importante, c'est l'instruction donnée au procureur général près la Cour de cassation de pouvoir débusquer tous les corrupteurs et les corrompus pour les sanctionner sévèrement.
Le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, joint à Kinshasa, et je rappelle qu'on y revient dans la partie magazine.
Et toujours en République démocratique du Congo, le nouveau bilan du déraillement d'un train hier soir dans le centre-ouest est passé à 32 morts, 91 blessés, dont 18 dans un état grave, a indiqué un officiel. Le train de marchandises a déraillé dans la province du Kasaï, entre Ilebo et Kananga. Il avait aussi à bord des passagers clandestins.
Le chanteur congolais Koffi Olomide a été condamné ce lundi par la justice française à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. 7 ans de prison avaient été requis à l'audience tenue à huis clos le 11 février à l'encontre de la star de la rumba poursuivie pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité. Et pour séquestration sur 4 danseuses pour des faits commis en région parisienne entre 2002 et 2006.
Le cyclone Idai qui a balayé en fin de semaine le Mozambique et le Zimbabwe, emportant routes, ponts, hôpitaux, écoles et au moins un barrage, a fait au moins 162 morts, selon la Croix-Rouge. Le bilan du cyclone pourrait dépasser le millier de morts, a annoncé le président mozambicain Filipe Nyusi au cours d'une intervention télévisée. Des précisions de Michel Joseph.
Idai et ses vents d'une extrême violence, associés à des pluies torrentielles, se sont abattus sur le centre du Mozambique jeudi soir, avant de poursuivre leur course folle au Zimbabwe voisin. Selon un bilan provisoire compilé lundi par l'AFP, 73 personnes ont été tuées au Mozambique, dont 55 dans la seule ville portuaire de Beira et 89 au Zimbabwe, où les secours peinent à arriver dans certaines régions inondées. On a l'impression d'avoir affaire aux conséquences d'une guerre à grande échelle, a estimé le ministre mozambicain de la Défense, Perrin Chiri. L'étendue des dégâts à Beira, ville d'un demi-million d'habitants, est énorme et terrifiante, a prévenu la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui participent aux premières opérations de secours. Les moyens de communication ont été totalement coupés et les routes sont détruites, compliquant grandement les secours.
Au Burkina Faso, 5 membres des forces de sécurité sont morts dans 2 explosions à Kombienga, dans l'est du pays. Des précisions avec notre correspondant Issa Napon.
C'est un véhicule du groupement central des armées qui a été visé dans cet attentat de dimanche soir dans la zone de Kompienbiga à l'est du pays. Le véhicule a sauté sur une mine artisanale, faisant 3 morts et 1 blessé parmi les forces de défense et de sécurité, selon une source sécuritaire. Une autre source confiait que la veille, un autre véhicule militaire sautait et faisait 2 morts, dont un gendarme et un béret rouge. Ces attaques surviennent alors qu'un curieux de la ville de Djibo est porté disparu depuis ce dimanche. Parti célébrer la messe dans la commune de Botigui, située à une 40 kilomètres de Djibo, l'abbé Joël Yougbaré reste jusque-là introuvable selon le diocèse de Douri dans un communiqué. Contacté, une source sécuritaire affirme que les ratissages sont toujours en cours pour tenter de localiser le curé. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Des Soudanais ont manifesté ce lundi dans la capitale Khartoum afin de poursuivre le mouvement de contestation enclenché le 19 décembre contre le régime du président Omar el-Béchir. Liberté, paix, justice ont scandé des foules de protestataires qui réclament depuis bientôt 3 mois le départ de M. Béchir, l'accusant notamment de mauvaise gestion économique. Des étudiants ont également manifesté dans une université d'un quartier huppé de Khartoum. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le 19 décembre au Soudan. L'ONG Human Rights Watch évoque le chiffre d'au moins 51 morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux Pays-Bas, plusieurs fusillades ont fait au moins 3 morts et 9 blessés lundi à Utrecht, dans le centre du pays. Un suspect originaire de Turquie est activement recherché par les forces de l'ordre. La police recherche Godman Tanis, 37 ans, en lien avec l'incident de ce matin, affirme la police sur Twitter. Les autorités néerlandaises évoquent la piste terroriste et ont demandé aux habitants de rester confinés chez eux.
Et retour sur le carnage qui a fait au moins 50 morts dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande la semaine dernière. On en sait un peu plus sur l'assaillant. Les autorités annoncent par ailleurs le durcissement de la législation sur les armes. Morgane Guerriec.
La première ministre Jacinda Ardern assure que la coalition gouvernementale est unie sur la nécessité de restreindre l'accès du public aux armes dont Brenton Tarrant est accusé de s'être servi vendredi. Madame Ardern a également annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur le fait que Brenton Tarrant, fasciste et raciste autoproclamé, n'ait pas attiré l'attention des agences de renseignement. Brenton Tarrant, 28 ans, a énormément voyagé à l'étranger au cours des 10 dernières années. Il s'était notamment rendu en Grèce, en Bulgarie et en Israël. Ce suprémaciste blanc ne figurait sur aucune liste de surveillance antiterroriste. Il a décidé de se défendre lui-même devant la justice. Les réseaux sociaux sont également sur la sellette en raison de la diffusion en direct sur Facebook du massacre filmé par son auteur. Le groupe américain dit avoir supprimé 1,5 million de vidéos. Cette tragédie a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande, pays réputé pour sa tradition d'hospitalité. Des Néo-Zélandais continuent à manifester ce lundi leur dégoût face aux attaques et leur rejet de la haine raciale.
Le bureau français d'enquête et d'analyse BEA a confirmé ce lundi que de claires similitudes sont apparues entre le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines et celui de Lion Air en octobre 2018 lors de l'examen des boîtes noires. Un rapport préliminaire sur les causes du crash sera publié dans 30 jours.
L'OTAN a dénoncé lundi le renforcement en cours du dispositif militaire russe en Crimée et dans la région de la mer Noire. Elle appelle Moscou à mettre fin à toutes les exactions commises dans ce territoire annexé illégalement. Cette violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine constitue une infraction grave au droit international, a rappelé l'OTAN. Le président russe Vladimir Poutine est en Crimée aujourd'hui pour célébrer le 5e anniversaire de l'annexion par la Russie de cette péninsule ukrainienne.
En Syrie, l'armée libérera les zones sous contrôle des forces kurdes dans le nord et le nord-est du pays par la force ou par le biais d'accords de réconciliation. Un avertissement donné ce lundi par le ministre syrien de la Défense, Ali Abdallah Ayoub, lors d'une conférence de presse à Damas avec les commandants en chef des armées irakiennes et iraniennes. Les forces kurdes sont la seule carte restante aux mains des Américains, a-t-il ajouté, en référence aux forces démocratique syrienne soutenue par la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis.
inondations en Indonésie. Selon un bilan officiel annoncé par l'Agence de gestion des catastrophes ce lundi, au moins 79 personnes ont péri dans ces inondations qui ont frappé la province de Papouasie ce week-end.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nanita Lani.
Lancement officiel de la campagne agricole 2019 au Cameroun, à l'exception des trois régions septentrionales. La Tribune, qui donne cette information, écrit que pour améliorer une production agricole insuffisante, les pouvoirs publics vont donner aux producteurs plus d'un million de plants de bananiers plantains, environ 1200 tonnes de semences de maïs certifiées, 665 tonnes de semences de pommes de terre certifiées, 1,2 million de plants de cacaoyers, 1,7 million de boutures de manioc et 300 000 plants de caféiers. Le Soudan a obtenu auprès du Fonds coétien pour le développement économique arabe un prêt de 164,6 millions de dollars pour une centrale électrique à Al-Fula dans l'état de Kordofan. L'agence Ecofin publie qu'elle aura une capacité de 405 MW répartie en trois unités de production de 135 MW chacune. Le projet inclut aussi une ligne de transmission double circuit qui reliera les localités d'El Obeid et de Babanouza. Pour finir, en Afrique du Sud, la taxe sur les boissons sucrées pourrait entraîner une baisse de 129 millions de dollars des revenus de l'industrie sucrière durant la campagne commerciale 2018-2019, selon un rapport du département américain de l'agriculture sur le secteur sucrier. Le manque à gagner pourrait menacer 10 000 emplois agricoles et entraîner une nouvelle réduction du prix de la canne achetée auprès des producteurs.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
CAN 2019, le TAS rendra sa décision sur la saisine des Comores après la sixième journée des éliminatoires.
Oui, les Comores ont saisi le tribunal arbitral du sport pour demander l'exclusion du Cameroun après que la CAF lui a retiré l'organisation de la compétition. Le TAS donnera sa réponse après la sixième et dernière journée des éliminatoires qui verra les deux équipes s'affronter le 22 mars à Yaoundé. Pour passer, les Lions indomptables ont besoin juste d'un match nul. Mais les Koélankats devront à tout prix l'emporter pour obtenir leur ticket, ce dont ils n'avaient pas forcément besoin si le TAS exclut le Cameroun de la compétition.
On connaît les huit qualifiés en quart de finale de la Coupe CAF.
Oui, après la Renaissance sportive de Berkane et le CS Sfaxien la semaine dernière, puis le Hassania Agadir et l'Étoile du Sahel, les quatre derniers tickets sont revenus aux Amalek d'Égypte, à Gor Mahia du Kenya, Al Hilal du Soudan et Nkana de la Zambie. Al Hilal a su classer Nkana 4-1 pour valider son billet, mais les Zambiens profitent de la victoire de leurs compatriotes des Esco sur les Ghanéens de la Santé Côte-à-Côte 2-1 dans l'autre match du groupe C pour se qualifier. Dans la poule D, enfin, le Zamalek a assuré sa qualification en tenant tête au Hussein Deye en Algérie 0-0, tandis que Gor Mahia, dernier avant cette dernière journée, a validé son billet à 9 contre 11 face aux Angolais de Petro Atlético, score final 1-0.
Et la grosse déception de cette phase de groupe, c'est l'élimination du tenant du titre, le Raja Casablanca.
Oui, les hommes de Patrice Carteron ont pourtant renversé l'AS Otoho Doyo 4-1 au Congo et enfin décroché leur premier succès dans le groupe A en vain puisque le Hassania Agadir a battu 1-0 la Renaissance sportive de Berkane, déjà qualifié dans l'autre match de la poule et termine deuxième avec un point d'avance sur les Rajaoui. Une victoire tardive, comme nous le dit l'entraîneur du Raja Casablanca, Patrice Carteron.
On est très déçus forcément, l'équipe arrive en forme malheureusement un peu tard dans la compétition. C'est bien d'avoir gagné ici 4-1. L'objectif reste cette Super Coupe et de se qualifier pour la Champions League. Voilà, ça a été très compliqué de devoir gérer un calendrier avec des matchs tous les 3 jours. On commence à remonter la pente et comme je l'ai dit, malheureusement, un peu tard. Il nous a manqué vraiment tellement peu de choses la semaine dernière face à Agadir qu'on est évidemment extrêmement déçus. Maintenant, c'est le football. Il faut l'accepter et se focaliser sur la Super Coupe et la fin de saison.
Messi a rejoint la sélection argentine à Madrid.
Oui, la star argentine, auteur d'un triplé avec le Barça à Séville contre le Betis, a rejoint la sélection à Madrid avant les matchs amicaux contre le Venezuela et le Maroc. Messi, qui revient avec l'équipe nationale pour la première fois depuis la Coupe du Monde en Russie en 2018, est retenu pour les deux matchs amicaux contre le Venezuela le 22 mars à Madrid et le Maroc le 26 mars à Tanger. Ces deux matchs entrent dans le cadre de la préparation de la Copa América qui se tiendra au Brésil du 14 juin au 7 juin prochain.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Manifestement, lui et son directeur de cabinet...
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Au Mali, 21 militaires ont été tués hier dimanche à l'aube dans une attaque contre leur camp à Djoura, dans le centre du pays. Selon Bamako, cette opération a été menée par un groupe terroriste dirigé par un déserteur passé dans les rangs djihadistes en 2012. Pour une analyse, Clermont Njibou rejoint le journaliste et directeur de publication du journal 22 septembre, Shahana Takiou.
Ça a été une surprise parce que le gouvernement du Mali investit 22% de son budget dans l'armée. Donc ces derniers temps, les autorités, la société civile, tout le monde soutient que l'armée monte en puissance. Malheureusement, elle a été surprise tôt ce dimanche et le bilan est lourd. C'est vraiment une très grande déception. Nous avions pensé que notre armée, avec les efforts faits par le gouvernement, pourrait quand même tenir face à une attaque terroriste. Ça n'a pas été le cas. C'est malheureux, c'est dommage, hélas.
Pour vous, comment se fait-il que cette insécurité persiste?
Il y a beaucoup de djihadistes qui ont quitté la Libye, la Syrie, qui pullulent le nord du Mali et le centre du Mali. Donc la persistance de l'insécurité est due, de mon point de vue, au sous-développement de notre pays, à l'absence de travail et pour les jeunes qui sont facilement embarqués dans des aventures. Et vraiment, 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 au manque de moyens de l'État de façon générale. Et à l'engagement sincère et honnête de la communauté internationale, notamment de la France, qui aurait pu s'engager plus avec la force Barkhane. Si la communauté internationale était engagée loyalement, sincèrement avec le Mali, je pense qu'on aurait dû enrayer l'insécurité qu'on connaît aujourd'hui.
Pour vous, c'est ça qui manque le plus? C'est ça qu'il faudrait mettre en place? Plus de support?
Ça manque le plus parce que même l'ONU qui est au Mali à travers l'AMUNISMA, les soldats de l'ONU ne se battent pas. Et les différentes résolutions de l'ONU ne permettent pas aux soldats onusiens de se battre pour le Mali. Ils sont là comme force d'interposition. Ce sont les forces maliennes seulement qui se battent contre les terroristes. Mais les ressources humaines sont insuffisantes, les moyens financiers sont insuffisants. Les terroristes sont des gens bien armés, avec une stratégie, avec une tactique, malheureusement qui surprend très souvent nos forces armées de sécurité. Et il faut vraiment d'autres moyens technologiques, sophistiqués, pour pouvoir vraiment se battre aussi contre les terroristes. Malheureusement, nous n'avons pas ces moyens sophistiqués de renseignement pour pouvoir combattre les terroristes efficacement.
C'était Shahana Takiou, journaliste et directeur de publication du journal le 22 septembre. Il était joint à Bamako.
Aujourd'hui, dans À votre avis, votre émission interactive, à 18h05, temps universel, sur VOA Afrique, nous évoquerons la situation politique en RDC, où plusieurs manifestations ont éclaté après la victoire sénatoriale du FCC de Joseph Kabila. Pensez-vous que la RDC va pouvoir finaliser son gouvernement? Quels sont les risques d'une instabilité chronique? La cohabitation entre Tshisekedi et le pouvoir sortant a-t-elle une chance de réussir? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis sur l'antenne de VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, report de l'élection des gouverneurs prévue initialement fin mars et suspension de l'installation des sénateurs élus. Une enquête a été également ouverte sur les soupçons de corruption. Ces décisions ont été prises aujourd'hui à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. Et pour en parler, Eric Manirakiza, agent à Bruxelles, la journaliste et spécialiste de la RDC, Colette Brackman.
Manifestement, lui et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, ont frappé du poing sur la table parce qu'ils estiment qu'il n'est pas normal que eux, avec leur coalition CAS, ayant acquis la majorité, enfin c'est ce qu'on leur a dit, et accédé au poste de président, il n'est que 3 sénateurs, alors que la coalition pro-Kabila, le Front commun pour le Congo, en a 80. Donc ils estiment que mathématiquement, ça ne tient pas la route et qu'ils soupçonnent des faits de corruption. Seulement, ça va être difficile à établir parce que les FCC sont majoritaires à l'Assemblée nationale, maintenant majoritaires au Sénat, et donc on entre dans le rapport de force, ce qui ne sera pas très facile à gagner.
Comment présager la cohabitation ?
Ça risque d'être difficile parce que le fait que la coalition pro-Kabila soit majoritaire au Parlement, ils peuvent coincer le chef de l'État, ils peuvent voter une motion de défiance, ils peuvent invoquer des cas de corruption, ils peuvent invoquer des arguments contre le président Tshisekedi en disant qu'il ne répond pas aux critères requis pour un président de la République en termes d'études, etc. Donc on peut ressortir des dossiers sur lui et il y a une majorité parlementaire qui peut voter. Jusqu'à présent, ça n'a pas été très long, c'est 100 jours. La coalition a tenu un peu sur la bonne volonté des uns et des autres. Mais si on va à l'affrontement, la partie risque d'être difficile parce que légalement, les FCC sont majoritaires, mais le président Tshisekedi, je crois, a tout de même l'assentiment d'une bonne partie de l'opinion publique. Tshisekedi a écouté cette voix, disons, de la base et il est sorti. Et donc cette base, elle existe, elle donne de la voix. Hier, elle s'est manifestée d'une façon très violente et donc il va devoir l'écouter aussi, quoi. Et donc il est pris entre deux feux.
Et dans quelle mesure Félix Tshisekedi peut-il reprendre la main ?
Ça, c'est la politique congolaise, ça réserve des surprises et je crois qu'on ne peut rien prophétiser.
Quelle est l'éventualité de dissoudre le Parlement et appeler à de nouvelles élections ?
C'est un peu ce que certains réclament, c'est de remettre les compteurs à zéro, d'organiser de nouvelles élections. Mais alors là, la question, elle est très simple. Qui va payer un tel exercice ? Les élections précédentes ont coûté 500 millions de dollars pour des résultats extrêmement contestés. Alors on peut évidemment faire table rase, organiser de nouvelles élections, ce qui, à mon avis, serait une solution équitable. Mais qui va payer l'addition ? La question est posée.
C'était Colette Brackman, journaliste et spécialiste de la RDC.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines a rencontré ce lundi le président du Cameroun, Paul Biya, et rien n'a filtré de leur entretien. Mais le contexte de cette rencontre a été marqué par de vives protestations de Yaoundé au sujet de récentes sorties médiatiques de Tibor Nage sur la crise anglophone et les arrestations d'opposants qui ont été critiquées par le gouvernement camerounais. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Pas de couverture médiatique pour une partie de la presse de l'audience que le ministre camerounais de Relations extérieures a accordée à Tibor Nage ce matin. Par contre, au palais présidentiel, où le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines a été reçu par le président Paul Biya, une heure durant, une poignée de journalistes y a été conviée. Face à ceci, Tibor Nage a commenté ses récentes déclarations sur la situation du Cameroun. Il dit avoir apprécié que les Camerounais aient réagi de diverses manières à ses propos.
Quotations can always be interpreted in so many different ways. And that's why I tell people, I love the fact that the Cameroonian press is still very, very vibrant, very enthusiastic. And as I said, it's interesting reading the articles. I'm either a devil or an angel.
Des propos diplomatiques qui n'altèrent pas les vives critiques essuyées par le diplomate américain, Jean-Baptiste Atemengue, militant du RDPC, le parti au pouvoir.
C'est évident que c'est une ingérence. Le responsable américain ne maîtrise pas très bien la situation ici. Un groupuscule s'est érigé contre le choix des Camerounais, majoritairement à 71%, qui s'est porté sur un candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre et une minorité qui a obtenu 14%. Et quand une grande puissance veut prendre position par rapport à une telle situation, il vaut mieux qu'ils mettent leur puissance au service de la démocratie.
Cette grille de lecture des sorties médiatiques de Tibor Nage sur les crises que traverse le Cameroun n'est pas partagée par Christopher, un Camerounais originaire de la région du Sud-Ouest, en zone anglophone.
Le droit d'ingérence n'existe pas. Nous sommes dans un monde globalisé. Ce que Tibor dit, ce que l'Amérique dit, c'est réel. Ce pays est en feu. 7 régions sur 10, c'est en feu.
Mardi dernier, le sous-secrétaire d'État américain avait suggéré la tenue d'un forum international sur la crise anglophone. Difficile de savoir si une telle proposition a été faite au président Biya. C'est peu après que la présidence de la République a publié un tweet et une photo sur l'audience que Paul Biya a accordée aux diplomates américains. Durant son séjour au Cameroun, le sous-secrétaire d'État américain ne va pas donner de conférence de presse. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'avocat et opposant togolais François Boko prépare son retour au pays. Il avait démissionné en 2005 de son poste de ministre de l'Intérieur et s'était exilé en France. De passage à la VOA ici à Washington, François Boko est revenu sur les entretiens qu'il a eus à ce sujet dans la capitale américaine.
Vous savez que en 2005, à la suite de ma démission de mes fonctions de ministre de l'Intérieur pour protester contre un processus électoral qui mettait en danger la vie de mes compatriotes, le département d'État américain avait salué le courage et l'intégrité de mon action et les négociations diplomatiques auxquelles avait pris part l'administration américaine avaient contribué sérieusement à mon exfiltration vers la France. 14 ans après, j'envisage de repartir au Togo et il était de mon devoir de réserver la primeur de cette décision que j'ai prise de retourner au Togo en mars, c'est-à-dire avant la fin de ce mois. Donc je me devais de réserver la primeur de cette décision à l'administration américaine qui a pris une bonne partie, qui a participé activement aux négociations diplomatiques.
Je présume que vous avez eu des entretiens ici à Washington. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
J'ai donc informé l'administration américaine, le département d'État, de cette décision assez grave et j'ai eu une oreille attentive au niveau du département d'État qui mesure la portée de cette décision et qui souligne l'intérêt pour l'administration américaine d'un processus électoral inclusif qui garantit la sécurité de tous, y compris des potentiels acteurs politiques. Et donc, je peux vous rassurer que l'administration américaine, qui, de par l'intérêt qu'elle avait porté en 2005 à ma décision, a réitéré cet intérêt. Et cela est pour nous un haut confort. Et je pense que je vais continuer la tournée diplomatique pour informer aussi d'autres partenaires, notamment l'Allemagne. La France est déjà bien impliquée dans ce processus de retour.
Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour votre participation aux Jeux politiques au Togo ?
Il n'y a pas d'obstacle majeur, comme je le disais tantôt, étant donné que mon retour est acté par l'administration togolaise. Il y a des problèmes administratifs, notamment liés à l'établissement du certificat de nationalité, le passeport, que les autorités togolaises ont promis. Mais là, ce ne sont que des détails et j'ai mandaté les avocats pour régler ces détails.
C'était l'avocat et opposant togolais François Boko qui répondait aux questions de Timothée Donangmaï.
Et c'est la fin de cette... Merci d'avoir suivi cette édition mise en onde par Michel Joseph. À la console, il y avait Audrius Regis. Présentation Abdourahman Dia et Raissa Gironde.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez en contact sur notre page Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Excellente suite de programme.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.